Chers auditeurs, auditrices, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices des programmes de Studio Kalangou, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos programmes qui sont diffusés par 52 et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangou qui a pour thème l'impact des services de la météorologie nationale pour la population nigérienne dans le contexte du changement climatique. Au Niger et dans le reste du Sahel, la menace du changement climatique est une réalité quotidienne pour les habitants. Et selon les Nations Unies, les températures augmentent plus vite au Sahel que dans le reste du monde, ce qui aggraverait les problèmes d'eau, de sécurité alimentaire, pour ne citer que cela. Ainsi, au Niger, pour permettre aux populations de gérer les risques climatiques, les services de la météorologie nationale offrent des opportunités pour le développement socio-économique afin de permettre à ces populations de mieux anticiper et s'adapter au changement climatique. Alors, à l'occasion de la célébration ce 23 mars de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la météorologie, nous allons donc parler du changement climatique. Nous verrons les effets du changement climatique constatés au Niger, ses causes et ses impacts sur la société. Enfin, nous verrons comment les services climatiques du Niger contribuent-ils à gérer les risques climatiques au Niger et les opportunités qu'ils offrent d'ailleurs aux populations pour mieux s'adapter au changement climatique. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Kachalou Gabtialouam. Il est le directeur de la météorologie nationale. Bonsoir, Monsieur le directeur.
Bonsoir.
M. Ousmane Abdou, il est le point focal du groupe de travail climat, agriculture et sécurité alimentaire. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je reçois également M. Mohamed Ousseini, il est le point focal du groupe de travail climat, ressources en eau. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, M. Bormou Bohari, point focal du groupe climat, réduction des risques de catastrophe. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Merci à tous, merci à nos invités d'être venus et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous débattons de l'impact des services de la météorologie nationale pour la population nigérienne dans le contexte du changement climatique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons procéder à une brève présentation de nos invités, leur structure qu'ils représentent et leur mission. Je commence par vous, monsieur le directeur, monsieur Lawangaptia. Présentez-nous les services de la météorologie nationale, la direction autant pour moi.
Ok, merci bien. Le dessin de la météorologie nationale, c'est la structure nationale, effectivement, et de l'État qui est chargé, n'est-ce pas, si on veut, de l'élaboration de toutes les questions donc, de politique qui a un regard sur la météorologie, le climat, donc au Niger. Et donc, comme tel, ces outils, les principaux outils, c'est d'asseoir un réseau d'observation météorologique au niveau national. Mm-hmm. Parce que la science de la météorologie, c'est d'abord les données.
Les données, effectivement, que vous collectez.
Effectivement, tant qu'on n'a pas les données, on ne peut pas faire de la météo. Mm-hmm. Et c'est ainsi qu'on a un certain nombre de stations. Nous avons 15 stations synoptiques. C'est les stations principales professionnelles que nous avons à travers le monde, je veux dire à travers le pays. Mm-hmm. Et nous avons une dizaine de stations climatologiques également, mm-hmm. de deuxième importance, mm-hmm. mais qui est également tenue par des agents qualifiés. Mm-hmm. Et maintenant, nous avons quelques 1000 à 2000 stations postes pluviométriques, mm-hmm. à travers le Niger, où nous récoltons, n'est-ce pas, toutes les informations liées à la pluviométrie.
D'accord.
Et avec lesquelles nous travaillons pour faire le suivi, mm-hmm. et les prévisions du temps, donc au niveau donc, de la météo.
Merci donc pour ces précisions, monsieur le directeur. Monsieur Ousmane Abdou, vous êtes le point focal du groupe de travail climat, agriculture et sécurité alimentaire au sein du cadre national pour les services climatiques. Dites-nous, en quoi consiste votre mission au sein de ce cadre?
Merci madame. Donc, comme vous venez de le dire, c'est Ousmane Abdou. Je suis à la Direction générale de l'agriculture, mm-hmm. donc au ministère de l'agriculture, mm-hmm. et qui a comme mission la gestion des politiques agricoles et donc plus spécifiquement le suivi des campagnes, mm-hmm. que ce soit la campagne pluviale ou la campagne irriguée. Donc, et autour de ça, il y a l'accompagnement de tous les acteurs ruraux. Mm-hmm. Donc, et par rapport à ce cadre spécifique, j'ai la responsabilité donc du point focal, mm-hmm. donc qui essaie un peu d'organiser donc le groupe de travail, donc élaborer le plan de travail maintenant et en rapport avec tous les groupes, identifier les différentes thématiques. Donc, qui devait être élaboré sous forme de bulletin périodique.
En lien avec l'agriculture.
En lien avec l'agriculture, effectivement. Et d'ailleurs, au-delà, parce que là, vous, dans ce cadre, c'est l'agriculture avec grand A. Quand on dit agriculture avec grand A, donc on a l'agriculture avec petit A, l'élevage, l'environnement, voilà. Donc, voilà un peu de façon globale comment ça se déroule.
Et vous, M. Mohamed Ousseini, le point focal du groupe de travail climat ressources en eau, parlez-nous.
Donc, merci. Comme vous dites, je suis Mohamed Hussein Ibrahim. Donc, je suis à la direction des ressources en eau au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Donc, on s'occupe de l'hydrologie. Donc, l'hydrologie, c'est tout ce qui concerne le suivi des eaux de surface au Niger. Donc, à l'instar de la météorologie, donc, on dispose également d'un certain nombre de stations sur les cours d'eau. Et notamment des stations automatiques ou bien des stations où on fait des relevés manuels, des stations de base. Et avec ces stations qui sont sur notre réseau, on fait la collecte des données. Donc ces données nous servent, comme je dis, à faire le suivi des ressources en eau et également aussi qu'il s'agisse de, des inondations, des sécheresses. On a également un modèle sur un cours d'eau qui nous permet de faire des prévisions, notamment en cas de risque climatique.
Merci bien. Je termine avec vous, M. Bormou, pour la présentation. Vous êtes le point focal du groupe climat, réduction des risques de catastrophe.
Merci, madame. Moi, je suis le point focal du groupe de travail climat, réduction des risques de catastrophe, mais ma structure, c'est le dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires.
D'accord.
Et c'est un dispositif qui est composé de trois cellules, à savoir la cellule de coordination du système d'alerte précoce, à laquelle j'appartiens, la cellule crise alimentaire et la cellule filets sociaux. À côté de ces structures, vous avez des projets qui sont adossés. Et c'est le cas du projet filets sociaux.
D'accord.
Et le PIDURAM.
Merci donc pour cette brève présentation. Donc nous allons parler de l'impact de vos activités pour permettre à la population nigérienne de vraiment faire face au changement climatique qu'on constate ces dernières années. Et donc beaucoup de personnes veulent comprendre même ce que c'est que la notion du changement climatique. Je reviens vers vous, monsieur le directeur de la météorologie, monsieur Kachalla. Comment expliquer le changement climatique et qu'est-ce qui est à la base de cette situation?
Ok, merci bien, madame. Le changement climatique, si on veut, donc, par définition, c'est un changement statistiquement significatif de l'état moyen du climat ou de sa variation qui persisterait pendant des décennies. Et c'est ça le changement climatique. Et les causes, c'est généralement lié aux activités humaines, principalement, mais également nous avons des aspects naturels. Et donc, parlant des activités humaines qui seraient la cause du changement climatique, c'est toutes les activités qui peuvent générer, si on veut, des gaz dits à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, c'est quoi leurs propriétés? Ce sont des gaz, une fois dans l'atmosphère, et la radiation qui part, donc sous forme d'infrarouge qui répare dans l'atmosphère et donc normalement qui devrait se dissiper dans l'espace et ramener vers nous. Et donc plus le taux de ces gaz-là augmente dans l'atmosphère, plus beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur est ramenée et vers donc sur le système Terre, océan, donc sur le système climatique si on veut, et c'est ça qui réchauffe le climat.
Le climat, oui.
Donc les températures donc moyennes qui étaient de 15 degrés sont en train de passer à autre chose, plus que cela. Et donc on vit dans un monde beaucoup plus chaud.
Donc pas un phénomène naturel.
Oui, disons quand nous sommes c'est pas naturel quand on vit, parce que si on devrait garder si on s'est placé avant l'ère industrielle, avant la révolution industrielle, à ce moment-là, tout était naturel. C'est vrai qu'en ce moment également, les gaz à effet de serre existaient dans l'atmosphère, mais à une proportion naturelle, bien entendu, et donc qui garde un équilibre, qui ne perturbe pas le système climatique. Mais une fois que la révolution industrielle est venue, où on peut fabriquer des véhicules, des avions, n'est-ce pas, des trains, tout ce qui fait de la combustion, n'est-ce pas, de ces fossiles-là qui génèrent des gaz carboniques, de l'oxyde nitreux, le méthane. Donc, c'est ça les gaz, les principaux gaz à effet de serre. Et donc, a fait que tout le monde s'y est mis. Dans tous les pays, on a, au lieu de monter sur le cheval ou sur l'âne, on est plutôt dans des véhicules, c'est des motos. Et donc, c'est tout ça qui,
ça contribue.
Voilà, qui augmente la pollution atmosphérique, principalement la pollution à travers ces gaz à effet de serre, qui deviennent, donc la concentration devient importante et donc qui ramène beaucoup plus de chaleur.
D'accord.
Et la température étant un élément central, donc, dans un écosystème où la température augmente, ça entraîne tout le reste. Et donc, ça amène un bouleversement de notre climat. Et c'est ce que nous vivons actuellement à travers le monde.
Et ici, au Niger, aujourd'hui, comment se présente la situation? Quels sont les effets constatés au Niger, les effets du changement climatique?
Bon, la première manifestation, c'est déjà, comme on dit, que fondamentalement, ce que l'homme fait, c'est contribuer au réchauffement. Et donc, nous avons pris, on a si bien vu que depuis les années 80, nous assistons à une augmentation soutenue. Quand j'ai dit soutenu, c'est-à-dire qu'au-dessus de la moyenne de la température du globe. Et nous, on a essayé de voir avec nos propres données, est-ce que nous avons la même configuration au Niger. Et quand on a fait cet exercice-là, et on a vu qu'effectivement, les températures, et pour ce qui est des températures du jour, elles augmentent depuis 1996-97 dans toutes les régions du Niger. Ça a commencé 1996-97. Depuis que ces années-là, les températures ont grimpé au-dessus de la moyenne et n'y sont jamais descendues. Seulement en 2008, il y a eu un artefact et cela est dû à un phénomène qu'on appelle un refroidissement du Pacifique et qu'on appelle la Nina. Et donc, qui a entraîné, si vous voulez, un radoucissement. Ça a adouci, en fait, la température du globe et c'est en partie, et peut baisser la température. De façon circonstancielle, mais juste après, c'est reparti à la normale. Et donc, on est toujours au-dessus de la moyenne. Et pour les températures de nuit, donc les températures minimales, c'est à partir de 2004 qu'au Niger, on a vu que, et depuis que le réchauffement a commencé à ce niveau, donc ça s'est maintenu au-dessus de la moyenne jusqu'à nos jours. Donc voilà, en fait, tout ce qui crée et comment ça se manifeste déjà au niveau climatique, au niveau du réchauffement. Maintenant, après, Il y a des autres conséquences, comme je dis que quand la température augmente, tout le reste suit. Et donc, quand nous prenons par exemple le domaine de l'agriculture, c'est qu'on a une agriculture pluviale. Et donc, c'est la pluie qui est le plus important. Donc, l'élément, le paramètre pluie également est impacté par ce changement climatique.
Nous avons la chance d'avoir les points focaux qui vont nous parler vraiment de l'impact sur
certains détails.
Oui, mais est-ce que tous ces effets que vous venez de citer, on les constate, s'observent dans tout le pays?
Oui, exactement. C'est dans tous les pays qu'on a cette
situation. Mais est-ce qu'il y a des zones qui sont le plus touchées?
Quand nous prenons, par exemple, les précipitations, de façon générale, ce que l'on constate, c'est que nous avons, en réalité, contrairement à tout ce que beaucoup de documents disent, que les usuettes sont en train de descendre vers le sud, qu'on a une réduction des précipitations, mais en réalité, en termes de total, ce n'est pas vrai. C'est que nous avons, c'est que c'est une augmentation globale du total pluviométrique. Mais le problème que nous avons, effectivement, c'est que nous avons une réduction du nombre de jours de pluie dans la saison et une très mauvaise répartition de cette pluie-là à l'intérieur de la saison. Voilà l'élément clé de l'impact du changement climatique à l'altitude, plus qu'une diminution de la quantité de pluie. Et avec cela, on va trouver des situations où les pluviométries se concentrent sur un laps de temps et c'est ça qui amène les inondations que nous vivons. Donc, dans une même année, on peut avoir et les inondations et les sécheresses, par exemple. C'est l'exemple de 2021 où nous avons eu cette situation-là. Il y a eu beaucoup d'inondations, mais également des pauses pluviométriques prolongées qui ont amené à de la sécheresse et qui a affecté toute la production agricole où nous avons assisté à une baisse quand même drastique.
La production.
Monsieur Ousmane va me compléter certainement là-dessus. Et de la pluie. L'autre chose, effectivement, j'ai parlé déjà de la sécheresse, donc on a compris que maintenant il y a de temps en temps des longues pauses pluviométriques à l'intérieur de la saison et c'est ça qui maintenant amène le grand challenge. C'est pourquoi quand son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, avait institué son programme de pluie provoquée, les gens ne comprenaient pas. On dit, mais il y a beaucoup de pluie, vous avez prévu beaucoup de pluie, mais vous dites de faire encore les pluies provoquées. Mais c'était bien motivé, parce qu'en fait, on assiste à des périodes où tu vas avoir une semaine, deux semaines, deux fois trois semaines sans pluie. Et donc, ça justifie le fait que, effectivement, pour combler ces trous-là, c'était salutaire d'avoir ces genres d'outils pour pouvoir les combler. Donc, voilà un peu, si on veut, les challenges que nous avons en termes de pluviométrie. Maintenant, il y a aussi le réchauffement à lui-même. Les températures augmentent, l'humidité augmente. Et donc, l'indice de confort devient également un vrai problème parce que nous vivons dans un environnement trop stressé où, aujourd'hui, le problème sanitaire lié à la hausse des températures, aux canicules, est une véritable réalité. Même si nous n'avons pas beaucoup d'études qui les montre au Niger. Mm-hmm. Nous vous rappelons, en 2010, nous avons eu cette vague de chaleur où on a vu plusieurs morts au niveau de l'hôpital de Niamey, où des jours durant, même les nuits, on enterrait les gens. Mm-hmm. Et donc, c'est quelque chose qui s'est passé souvent en Europe, mais qui aussi, maintenant, aujourd'hui, ça se passe également chez nous.
D'accord.
Et donc là, c'est une autre préoccupation.
Le changement climatique donc est donc une réalité ici au Niger et affecte autant la population que différents secteurs tels que l'agriculture, comme l'a dit monsieur le directeur de la météorologie nationale. Et selon les statistiques, on sait que c'est plus de 80% de la population nigérienne qui vit de l'agriculture. Monsieur Ousmane, vous êtes le point focal agriculture. Dites-nous comment vraiment ce changement climatique impacte notamment l'agriculture au Niger.
Par rapport à l'impact du changement climatique sur le secteur agricole, et là je vais préciser encore
l'agriculture
avec grand A. Effectivement, quand même, l'impact est significatif. Mm-hmm. Tout à l'heure, le directeur parlait un peu de raccourcissement des cycles et des pauses pluviométriques. Mm-hmm. Et là, vraiment, c'est critique pour un cycle de culture qui est censé faire 3 mois. Si jamais,
c'est le réduit.
C'est le réduit, ça veut dire que donc, cette culture ne peut pas boucler son cycle normalement. Mm-hmm. Et conséquence, donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans un cycle d'insécurité alimentaire qui est là. Et la même situation se pose au niveau pastoral. Mm-hmm. Parce que, voyez-vous, le Niger aussi, quand même, c'est un pays d'élevage. Mm-hmm. Et on a une zone pastorale qui est là. Et si jamais... Donc, le cycle n'est pas bouclé, ça veut dire que aussi donc, le volet pastoral est affecté et donc avec comme conséquence. Donc, sur
mais
les
est-ce
animaux,
que c'est la même situation qu'on vit actuellement?
Absolument, voilà. Mais c'est comme on prend le cas de l'année 2021, où on a accusé quand même des déficits critiques. Donc, non seulement du pâturage, mais également donc, d'alimentation, parce que la production n'a pas donc, couvert le besoin et on s'est retrouvé avec des déficits. Mm-hmm. C'est là, bon, aussi, on prend l'année où, quand même, on a dégagé un excédent pour l'année 2022, mais à l'intérieur, en fait, c'est une moyenne, mais à l'intérieur, si vous creusez, il y a des villages déficitaires. Donc, et c'est la même chose qu'on avait relevé également, donc des cas, des zones à déficit fourrager et qui impactent sur la vie de l'agropasteur.
C'est inquiétant.
Donc, voilà un peu, mais quand même, il y a des dispositions qui...
Voilà, nous allons en venir aux dispositions, le temps de donner la parole à M. Mohamed Houssaini, qui est le point focal du groupe de travail climat, ressources en eau. Dites-nous en quoi ce changement climatique perturbe la disponibilité des ressources en eau potable ici au Niger.
Bon, le changement climatique, comme tout le monde le connaît, impacte sur la disponibilité des ressources en eau, évidemment. Donc, on constate ces derniers temps un phénomène récurrent. Et des inondations ou des sécheresses qui affectent les ressources en eau, et cela est dû effectivement au changement climatique. Voilà. Donc, et bien entendu, il y a des outils qu'on développe pour quand même pouvoir atténuer ces impacts. Il y a aussi des outils d'adaptation donc, qui sont développés. Mais vous savez, quand la température augmente, on a beaucoup de phénomènes de sécheresse qu'on a constaté sur la diminution des ressources en eau et liées à ces changements climatiques. Ou bien, tantôt, c'est comme ça vient d'être expliqué, vous savez, les ressources en eau, c'est les précipitations aussi. L'hydrologie, c'est le cycle de l'eau. Donc, et comme les précipitations sont mal réparties dans l'espace et dans le temps, donc quand on a beaucoup de pluie qui arrive dans une période courte qui est là, donc, on assiste à des phénomènes d'inondation. Et puis maintenant, quand ces pluies s'arrêtent encore, qu'elles sont mal reparties, on assiste également à des phénomènes de sécheresse et à cette rarification de l'eau pour la population.
D'accord. Monsieur Bouhari, ce changement climatique affecte vraiment presque tous les secteurs socio-économiques du Niger. C'est des catastrophes, si on peut le dire. Comment vous abordez cette question du changement climatique?
Ben, il faut dire que le Niger... a mis en place un système de suivi, d'analyse de la situation des catastrophes, au nombre desquelles vous avez la sécurité alimentaire, les crises alimentaires. Alors, nous sommes, de par notre mandat et de notre ancrage, donc nous avons, nous mettons à contribution toutes ces structures que vous voyez autour de moi, mm-hmm. puisque nous sommes des structures de collecte. Bien entendu, on appelle l'information météorologique, hydrologique, elle est très importante. Mm-hmm. C'est le point de départ de tout le travail que nous faisons.
Effectivement.
Alors, donc sur la base de ce que nous avons comme données, nous arrivons à évaluer le niveau d'insécurité alimentaire, mm-hmm. le nombre de personnes qui sont affectées. Mm-hmm. Et quand on parle de crise alimentaire, donc c'est une crise lente. Maintenant, il y a l'excès de l'eau qui peut être dommageable.
Effectivement.
Effectivement, donc en termes de pertes et dommages, mm-hmm. donc nous avons... Donc on évalue le nombre de personnes qui sont affectées, n'est-ce pas, le nombre de décès et les moyens d'existence qui sont impactés.
Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'une des catastrophes qui a beaucoup touché le Niger suite à ce changement climatique ces dernières années?
Ben, si vous prenez la série que nous avons, vous prenez déjà 2012,
oui.
avec 102 pertes en vie humaine,
547
000 personnes. Affectés par, par les inondations. Vous avez 2020, vous avez 2021 et 2022. Mmh. Voyez, en 2022, on a enregistré 195 pertes en vie humaine.
Mmh.
Énorme. Un peu plus de 550 000 personnes mmh. affectées. Alors vous voyez, de 2012 à aujourd'hui, les choses n'ont pas changé véritablement parce que vous voyez, les catastrophes, elles sont là. On vit avec mmh. et il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et beaucoup de choses sont en train d'être faites.
D'accord. Oui. Je reviens vers vous, monsieur le directeur de la météorologie nationale. Si ce changement climatique affecte autant la société, alors les défis qui se posent à vous au service de la météorologie sont énormes aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme toujours, hein, nous, notre rôle, c'est justement faire un suivi régulier au quotidien, n'est-ce pas? Et la preuve qu'aujourd'hui, nous produisons 3 bulletins de prévision par jour. Et pendant les 305 jours, pratiquement, bon, sauf le week-end pour ce qui est les deux autres bulletins, mais pour les bulletins télévisés, chaque jour que Dieu fait, nous produisons toute l'année ces bulletins. Ça, c'est pour montrer et pour informer la population de façon générale sur l'évolution du temps, n'est-ce pas, et également du climat, mais également d'anticiper pour donc sur les prévisions. Maintenant, notre rôle aujourd'hui est fondamental dans cette ère de changement climatique, c'est vraiment chercher la résilience de nos populations. Et la résilience de nos populations...
En quoi faisant,
ça ne pourrait se faire que... La première des choses, il faut d'abord sensibiliser cette population qui a constaté la chose, mais peut-être qu'elle n'arrive pas à cerner le contour du problème.
De ce qui leur arrive aujourd'hui.
De ce qui leur arrive. Mm-hmm. Et ils se réfèrent seulement aux temps anciens pour dire mais les choses ont changé. Donc c'est notre rôle d'expliquer avec chiffres à l'appui, n'est-ce pas, quel est ce changement-là, comment ça les impacte, mm-hmm. et l'impact qu'ils constatent, qu'est-ce qui s'est passé réellement de façon scientifique, mm-hmm. pour qu'ils en prennent conscience et connaissance, et après, seulement, ils peuvent s'ajuster ou s'adapter.
D'accord.
Donc, notre rôle, c'est vraiment travailler avec la population, n'est-ce pas, avec l'aide de l'État, bien entendu, avec son soutien, mm-hmm. pour qu'on arrive à informer, à éduquer nos populations, pour qu'elles prennent la mesure du problème et qu'elles arrivent à apporter les modes d'adaptation les plus appropriés. Mm-hmm. Parce que l'adaptation, c'est local. Hein. On peut utiliser telle méthode ici, mm-hmm. mais ce n'est pas forcément la même méthode.
De,
voilà.
Oui,
et donc, c'est pourquoi mm-hmm. il faut travailler avec les services de la météorologie, mm-hmm. où nous avons, sur tout le territoire nigérien, toutes les données, localité par localité, mm-hmm. où on peut caractériser le climat justement, parce que la première chose que nous faisons justement, c'est de caractériser le climat pour dire, bon, il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est quoi la tendance actuelle?
Et dans le futur, qu'est-ce qui va se passer?
D'accord.
Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire mm-hmm. pour que la population soit consciente.
Mais
en même temps, aujourd'hui, l'autre chose, c'est les catastrophes. Mm-hmm. Les inondations, les sécheresses, il faut qu'on les prémunisse de l'information nécessaire mm-hmm. et des techniques pour arriver à sauvegarder des vies, mm-hmm. mais également à faire en sorte que le cadre de vie est protégé et également les gens arrivent à développer des activités résilientes.
D'accord. Donc, voilà. Justement, un cadre national pour les services climatiques est mis en place pour mieux gérer ces risques climatiques au Niger. Présentez-nous ce cadre.
Merci beaucoup. Et donc, effectivement, c'est un des outils qui est au niveau de la direction de la météorologie nationale.
Mm-hmm.
Et donc, tous les acteurs qui sont ici animent ce cadre-là,
oui,
qui est coordonné par la direction de la météorologie nationale. En fait, depuis 2009, la troisième conférence sur le climat, on a constaté que le climat affecte tous les secteurs socio-économiques du monde. Et donc, c'est comme ça qu'on a dit qu'il va falloir développer des services centrés sur le climat pour que tous les secteurs soient résilients face à ce climat qui est changeant. Et donc, c'est comme ça qu'on est sorti, qu'on est venu avec le GFCS, qui est le cadre mondial pour les services climatiques, où on devrait avoir des démembrements au niveau national.
Oui.
Et depuis 2012, avec tous les acteurs de la société nigérienne, nous sommes retrouvés à Sadoré pour, n'est-ce pas, élaborer notre cadre national pour les services climatiques, dont la coordination a été donnée à la direction de la météorologie nationale. Et c'est comme tel que nous avons actuellement, il faut le préciser, avec l'aide du PAM, depuis 4 ans maintenant, que nous avons, ce cadre est devenu opérationnel. Je rappelle que vraiment, c'est un cadre normalement qui devrait être un cadre qui devrait être géré par l'État, parce que c'est un cadre de souveraineté. Mais donc, ce cadre-là, nous avons 5 groupes thématiques qui travaillent. C'est le groupe climat-santé, il n'est pas parmi nous aujourd'hui, le pont focal. Le groupe climat-énergie également, l'énergie n'est pas là, mais nous avons le groupe climat-réduction des risques de catastrophe, dont le pont focal est M. Bouhari, Dr. Bouhari. Et nous avons Ousmane, qui est le pont focal du groupe climat-agriculture-sécurité alimentaire, et le groupe climat-ressources en eau. Et donc, toute la coordination est faite donc, par la direction de la météorologie nationale pour mettre en œuvre toutes les activités, comme il a si bien dit, qui sont définies à l'intérieur de ce groupe-là et que nous produisions généralement, entre autres, des bulletins mensuels pour expliquer sur l'ensemble du territoire national tous les problèmes qui sont liés sur l'influence du climat dans ces différents secteurs et les perspectives
d'avenir
mais dans une moindre mesure de temps pour les mois à venir. Voilà. Donc voilà un peu, si on veut, le travail qu'on fait et on donne à nos décideurs, voilà les vrais problèmes que nous sommes en train de vivre, mois par mois, pour qu'ils en soient informés. Et après, on fait également une évaluation pour leur dire, voilà, c'est que, par exemple, pour la saison, et qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème, et les opportunités s'il y en a, et éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire.
Merci bien, Monsieur Ousmane Abdou, le pont focal du groupe de travail climat ressources en eau, en plus donc des impacts environnementaux et sanitaires, le changement climatique est susceptible d'engendrer une profonde perturbation de la disponibilité des ressources en eau, comme vous l'avez dit. Dites-nous donc comment vous intervenez dans ce secteur.
Donc, en ce qui nous concerne, on fait un suivi régulier des ressources en eau. Et puis, effectivement, dans ce suivi régulier, on suit également les phénomènes climatiques extrêmes, notamment les inondations et les sécheresses. Et puis, on a, comme j'ai dit, un certain nombre de stations de collecte des données. Et ces données-là servent beaucoup. Parce que c'est avec ces données-là qu'on arrive quand même à, il faut le souligner, et à faire les ouvrages. Quand vous prenez un barrage ou les digues de protection, c'est avec ces données-là qu'on arrive quand même à dimensionner ces ouvrages-là pour protéger la population contre les inondations. Pour pouvoir alimenter la population en eau, c'est toujours avec nos données que ça se fait.
D'accord.
Parce que si vous n'avez pas des données correctes, c'est-à-dire vous courez, je vais dire, peut-être deux risques extrêmes. Soit vous allez faire des ouvrages qui vont se casser, et puis là, ça va coûter et cher, surtout en perte en vies humaines. Quand un barrage cède, vous savez les conséquences qu'il peut y avoir. Ou bien vous allez surdimensionner quand vous n'avez pas des données correctes, et puis un ouvrage qui doit coûter... coûter le double, une fortune, quoi, peu plus, beaucoup plus cher. Donc, vous voyez donc l'importance de toutes ces données que nous collectons. Donc, nous mettons également un certain nombre de bulletins d'information à la disposition des populations et des autorités et des notes techniques pour informer les populations sur l'évolution et des ressources en eau de nos cours d'eau, et pour qu'ils puissent voir et prendre les dispositions pour se protéger notamment contre les inondations. Et également en période de sécheresse, quand il y a en période d'étiage aussi, nous portons ces informations qui sont très utiles pour les sociétés d'alimentation en eau potable, pour qu'ils puissent voir comment s'adapter pour pouvoir bien alimenter les populations.
D'accord. Et vous, Monsieur Bouhari, point focal du groupe climat des risques des réductions des risques de catastrophe, dites-nous quel est vraiment l'impact des activités sur la gestion des risques climatiques ici au Niger.
Bien, comme l'a dit le domaine, depuis que le cadre national a été mis en place, ces activités quand même ont permis d'atteindre de très bons résultats. Aujourd'hui, au Niger, comme je l'ai dit, c'est structure qui collecte les données. Donc il y a eu quand même, on a constaté une amélioration dans la collecte des données. Et l'analyse de ces données permet de voir quand même l'impact de ces, qu'on appelle du changement climatique, n'est-ce pas, de ces catastrophes-là, au niveau local, régional et ainsi de suite. Si vous prenez par exemple je commence d'abord par la sécheresse. Donc, au sorti de l'analyse de la sécurité alimentaire de novembre, donc, il était ressorti un peu plus de 2,7 millions personnes en insécurité alimentaire. Oui, et on sait là où elles se trouvent parce que on connaît les zones dans lesquelles elles se trouvent. Ça permet quand même à l'État d'intervenir. Je suis d'accord. Et j'ai parlé tout à l'heure de pertes et dommages, donc la notion de pertes et dommages. Si vous prenez les inondations de 2022, quand même un peu plus de 40 000 maisons ont été détruites, totalement ou partiellement. On sait là où ça se trouve. Et ça, c'est un problème. Et donc, le fait de mettre à disposition ces informations-là, de collecter les données et de les traiter en information, ça permet quand même de voir l'ampleur et de situer l'impact.
D'accord. Mais est-ce qu'il y a des actions ponctuelles pour prévenir certains effets du changement climatique ici au Niger? Est-ce qu'il y a des actions ponctuelles vraiment à propos?
Si.
Notamment pour la sécheresse, l'avancée du désert, tout ça, les inondations.
La question de prévention des crises et des catastrophes, elle est quand même une des préoccupations des autorités du pays. Et comme je vous l'ai dit, un certain nombre de dispositifs mis en place pour pouvoir prendre en charge toutes ces questions-là. Et donc, sur la base de ce que nous avons comme information, l'État prend en charge un certain nombre d'activités n'est-ce pas,
qui pourraient permettre à la population de s'adapter,
tout à fait.
D'être beaucoup plus résilient.
Oui, et je m'appelle bien le directeur national de la météo qui appelle à l'une des COP. Il a fait ressortir quand même le travail que nous faisons au niveau du Niger, n'est-ce pas? Et il y a quand même une des priorités, c'est de savoir construire en mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de la prévention? Alors, si vous avez quand même un nombre de maisons détruites aussi important que ce que je viens de dire, donc, la première des choses, quand même, c'est de prendre des dispositions.
Des dispositions, d'accord. Oui. Merci parmi bien. Actions, oui, monsieur Mohamed.
Ajouter au niveau des ressources en eau, les actions sont faites par l'État. Bien que beaucoup reste à faire, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a, comme j'aime le dire, le barrage de Kandaji qui avance. Et ce barrage va servir d'ouvrage de régulation, notamment, par exemple, quand il y a assez d'eau, donc le barrage va contenir les eaux. Et puis, comme ça, on pourra lutter contre les inondations en aval. Et puis, quand il y a moins d'eau, donc il pourra faire des lâchers pour soutenir le manque d'eau en aval. Il y a aussi les digues de protection. Vous avez vu que les digues ont été quand même rehaussées. D'accord. Donc, mais il y a également, avec nos partenaires, on a pu quand même mettre souvent des modèles, des systèmes d'alerte précoce communautaires qui permettent à la population quand même de suivre au niveau de certains cours d'eau, l'évolution du niveau de l'eau et au niveau de ces villages-là. Et notamment, on a des plateformes qui sont là. Et puis, la population, c'est en open source. Ça veut dire que c'est gratuit. Donc, vous pouvez accéder facilement à tout moment, même à partir de votre smartphone. Et puis, vous pouvez suivre l'évolution des cours d'eau avec des couleurs, parce qu'on a des seuils. Quand la situation est verte, donc la situation est normale, plus le niveau monte, on va passer du jaune à l'orange au rouge. Donc, les populations peuvent suivre également et le niveau de l'eau et puis ils peuvent comprendre s'ils sont à risque d'inondation ou pas, ou bien s'il n'y a plus d'écoulement, ainsi de suite. Donc, on a mis ces plateformes-là au niveau de certains cours d'eau. En fait, c'est pour dire au passage qu'on pourrait aussi quand même le mettre sur certains cours d'eau du réseau hydrographique national. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui a bien marché. Et comme on le disait l'année passée au niveau de la Komadougou, il y a eu des débordements. Et puis, les gens ont été surpris. Alors que si on met des modèles, des plateformes comme ça au
qui
niveau...
Qui
pouvaient aider à la population d'être informés au fur et à mesure, à l'heure même de la situation... Et qui prévaut au niveau de la Komadougou, on peut mettre ça au niveau du Talwa, de la Magia, et des Goulbi, ainsi de suite.
D'accord.
Donc, je pense que c'est quelque chose qui a marché et qu'on pourra répercuter au niveau du réseau géographique national.
Monsieur Ousmane Abdou, le point focal climat agriculture. D'accord, vous, quelles sont les opportunités que vous offrez à ces agropasteurs? Comment vous travaillez d'abord dans ce cadre et quelles sont les opportunités que vous offrez à ces agropasteurs de s'adapter face au changement climatique?
Merci madame. Donc par rapport à nos activités dans le cadre spécifique donc du cadre national des services climatiques, effectivement comme c'est quand même un groupe pluridisciplinaire qui regroupe un certain nombre de secteurs. Donc, on s'organise toujours pour quand même un peu se tenir, enfin tenir une réunion pour apprécier l'année précédente et se projeter donc sur l'année suivante. Donc, et là, on essaie de pour un peu capitaliser et dégager un certain nombre de thématiques, donc qui puissent permettre donc d'aller de l'avant et permettre de mieux agir pour permettre aux agro-pasteurs donc d'être averti et d'être beaucoup plus résilient donc face aux changements et variabilités climatiques. Donc ceci étant, si nous prenons le cas spécifique de cette année, tout à l'heure docteur parlait de d'à peu près 2 millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire et nous sur la base de ça chaque année donc on essaie de bâtir un programme d'accompagnement donc à travers le ministère pour soutenir ces ménages vulnérables donc et là à travers un certain nombre d'intrants particulièrement donc des semences des variétés améliorées qui au fait un peu s'adaptent à ces variabilités et maintenant au-delà il y a un certain nombre de technologies d'innovation donc qui riment avec cette variabilité.
Oui, est-ce que vous pensez qu'ils s'adaptent bien à ces initiatives que vous leur proposez?
Oui, disons effectivement parce que si nous prenons le secteur rizicole, là dans le cadre de nos travaux par exemple et là je parle sous le contrôle donc de mon collègue de ressources en eau. Donc on sait que la réserve en eau c'est la vallée du fleuve. Donc si en fonction de la disponibilité là, on sait que les aménagements donc mènent leur activité. Si jamais il n'y a pas suffisamment de ressources en eau, étant donné que sur l'aménagement il y a deux campagnes qui se pratiquent. Donc, si par exemple, au sortir de la saison de pluie, il n'y a pas suffisamment d'eau, ça veut dire que la campagne irriguée risque de ne pas boucler son cycle. Et sur la base de ça, nous, nous avertissons donc, les riziculteurs pour dire, mais attention. Donc, voilà la situation qui se présente. Donc, ce qui veut dire que si habituellement, ils mettent en valeur les 100% des superficies, donc ils seront obligés de revoir et pour un peu harmoniser avec la réserve en eau. Donc, et c'est la même chose. Par exemple, s'ils doivent appliquer aussi les engrais,
ou faire un traitement phyto si jamais il y a, par exemple, un système qui est là, donc en rapport avec la météo, nous les avertissons pour dire, mais attention, si jamais vous appliquez ça, vous risquez de perdre votre argent.
Et parlant de perspectives d'avenir, alors quelles sont les perspectives d'avenir pour faire face à...
Oui, effectivement, les perspectives sont réalisantes parce que le climat continue à s'échauffer et parce que, effectivement, nous ne sommes pas encore arrivés à... D'ici 2050, tous les pays vont aller au carbone zéro. Donc, on l'espère bien que cela peut être respecté. Parce qu'il y a beaucoup de risques qui peuvent rentrer. Il y a des guerres qui viennent, il y a ceci, cela. Et dernièrement, l'Allemagne parlait de réouvrir la centrale en charbon. Et qui, le charbon qui est un grand pollueur. Et donc, vous voyez-vous, donc, c'est pas sûr que toujours nous avons la maîtrise, mais il faut que les populations, il faut que les pays du monde arrivent à s'entendre.
Mais que doit-on attendre de nos autorités alors face à ces défis climatiques qui se posent à nous aujourd'hui?
Non, c'est juste un soutien, une compréhension et un accompagnement de tous les services, de tous les services de l'État pour qu'ils arrivent à bien faire leur travail, à pouvoir avoir les données qu'ils ont besoin. Donc, ça veut dire que si c'est des équipements, si ce sont des réseaux à améliorer, je crois que c'est le moment que l'État donne une oreille attentive d'abord pour comprendre les problèmes et à pouvoir solutionner et accompagner.
Nous sommes donc presque à la fin de cette émission qui est réalisée à l'occasion même de la Journée mondiale de la météorologie le 23 mars. Dites-nous, monsieur le directeur, que représente vraiment cette journée pour vous?
Merci bien. Et donc, la Journée météorologique mondiale, c'est quelque chose qui est célébré. Et toutes les années, le 23 mars de chaque année, et depuis 1961. Et c'est l'entrée en vigueur de la convention qui a mis en place l'Organisation météorologique mondiale, qui est l'institution internationale qui regroupe à nos jours environ 193 États et territoires qui tous ensemble travaillent avec l'Organisation météorologique mondiale. Dans chaque pays du monde, il y a une direction de la météorologie mondiale qui est érigée, qui est l'OMM, c'est la coordination internationale. C'est la définition des normes sur comment il faut faire le travail de la météorologie, comment il faut observer, comment il faut définir les normes, le normal pour faire les études, comment, pour que ce soit comparatif et valable scientifiquement. Donc tout ça, c'est l'OMM qui détermine cela. Et l'OMM également appuie les États à se renforcer en capacité à faire cela. Mais cette journée a une implication assez importante pour le secteur de la météorologie parce que c'est d'abord la visibilité de la météo. Le monde entier va comprendre c'est quoi la météorologie et c'est pourquoi on prend des thèmes. Et c'est pourquoi nous avons organisé aujourd'hui ce débat pour un peu expliquer certaines choses qui sont en lien avec le climat, changement climatique et leurs impacts dans les différents secteurs.
Merci, monsieur le directeur. Rapidement, un tour de table pour nos trois autres invités. Un mot, votre dernier mot, un mot même sur la Journée mondiale de la météorologie. Rapidement, je commence par vous, monsieur Bohari.
Oui, bon. Merci, madame. La météo, c'est un outil indispensable pour des pays comme le Niger. On parle d'agriculture qui occupe pratiquement plus de 80% de la population. La météo, c'est ce qu'on appelle l'élément régulateur de nos activités. Si vous n'avez pas d'informations météorologiques, vous ne pouvez pas agir. Donc, aujourd'hui, avec le travail qui est en train de se faire, les informations qu'on met à la disposition de la population et des décideurs, ça permet de prendre des décisions. Ça permet de prendre des décisions, ça permet aux populations de se préparer en conséquence.
D'accord. Oui. Merci bien, monsieur Ousmane.
Je pense que cette journée, quand même, est l'occasion de sensibiliser les agro-pasteurs pour mieux s'adapter et quand même prendre un certain nombre de décisions par rapport à des pratiques résilientes. Et je crois que la météo est là aujourd'hui. Donc voilà ce que
rapidement,
je peux dire.
Rapidement, monsieur Mohamed, votre dernier mot.
Donc, mon dernier mot, je voudrais dire que la météo et l'hydrologie vont de pair. Nous, d'ailleurs, les hydrologues, on a tendance à l'appeler la journée hydrométrologique et mondiale. Parce que, vous savez, l'hydrologie, c'est le cycle de l'eau. Donc, nous, en hydrologie, on dépend des précipitations d'abord, que la météo suit. Et puis après les pluies, on a les écoulements. Et c'est ça l'hydrologie. Donc on est effectivement ensemble Et si vous constatez, d'ailleurs, cette journée, je crois, est précédée de la journée mondiale de l'eau,
oui,
le 22 mars.
Oui.
Donc, et le 23 mars, on a la journée météorologique mondiale. Ça donc, c'est pour dire qu'on est ensemble. Mm-hmm. Ces dates ne sont pas choisies
merci.
Au hasard. Et donc, voilà, c'est notre journée, c'est leur journée également.
Merci. Merci donc, chers invités, chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangu, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Kalangu. C'est donc ici que prend fin cette émission qui avait pour thème l'impact des services de la météorologie nationale pour la population nigérienne dans le contexte du changement climatique. Et à travers les interventions de nos invités, nous constatons que le changement climatique est une réalité ici au Niger, car il touche autant de secteurs, il perturbe autant de secteurs tels que le secteur agro-pastoral, la question des ressources en eau, donc à travers donc, les services de la météorologie, du cadre national des services climatiques qui offrent des opportunités à la population de s'adapter pour faire face à ces risques de changement climatique. Donc c'est ici que prend fin cette émission. Merci à nos invités d'être venus. Il s'agit de M. Kachalla Gabtia, directeur de la météorologie nationale, M. Ousmane Abdou, point focal du groupe de travail climatique, agriculture et sécurité alimentaire, M. Mohamed Ousseini, point focal du groupe de travail climat, ressources en eau, et enfin M. Bormou Bohari, il est le point focal du groupe climat, réduction des risques de catastrophe. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. La technique est assurée par Issa Lawali. À la régie vidéo, Mustapha Ayuba. À très bientôt sur le studio Kalangu pour une nouvelle thématique. Au revoir.